Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean. Texte de la liturgie catholique romaine pour le deuxième dimanche de Pâques. C'est donc le soir, ce premier jour de la semaine, les portes ayant été verrouillées, là où se trouvent les disciples, par crainte des Juifs. Jésus vient et, se tenant au milieu d'eux, leur dit
« Paix à vous ».
Cela dit, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont alors remplis de joie à la vue du Seigneur. Jésus leur dit donc de nouveau
« Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous donne mission ».
Cela dit, il souffle sur eux et leur dit
« Recevez l'Esprit de sainteté. Ceux à qui vous remettez les péchés, ils sont remis. Ceux à qui vous les retenez, ils sont retenus. »
Thomas, l'un des 12, appelé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus est venu. Les autres disciples lui disent
« Nous avons vu le Seigneur. »
Mais celui-ci leur dit
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et ne place pas mon doigt dans la marque des clous, et ne place pas ma main dans son côté, sûrement que je ne croirai pas. »
8 jours après, ses disciples sont de nouveau à l'intérieur, et Thomas est avec eux. Jésus vient, les portes ayant été fermées, et se tenant au milieu, il dit
« Paix à vous !»
Puis il dit à Thomas
« Porte ton doigt ici et vois mes mains, porte ta main et place-la dans mon côté. » Cesse d'être incroyant, mais croyant. »
Thomas répond et lui dit
« Mon Seigneur et mon Dieu. »
Jésus lui dit
« Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. »
En présence de ses disciples, Jésus a fait encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez vie en son nom.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Voici un des textes clés de l'Évangile. Un texte fondamental au sens le plus fort de ce terme, un texte qui dit le fondement de la foi chrétienne, ce sur quoi les chrétiens appuient leur foi depuis 2000 ans.
En effet, notre récit, où se situe-t-il dans le récit de Jean? Eh bien, c'est le soir du grand jour de l'histoire humaine, le jour marqué des premières manifestations de Jésus ressuscité. Ce jour, qui est le premier de la semaine pour les Juifs, va devenir pour les disciples de Jésus le jour du Seigneur, Dies Dominicus en latin, qui a donné en français par contraction notre dimanche. Le matin de ce jour, Jésus est apparu à Marie de Magdala, à qui il a confié le message « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père ». Le soir, alors que les disciples sont réunis, Jésus va venir vers eux pour leur donner mission. Pour bien comprendre ce qui va se vivre en cette soirée, il faut se rappeler le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Un repas qui est fortement marqué par les propos qui concernent son départ vers le Père. Eh bien, ce que Jésus leur a promis à l'heure se réalise maintenant.
« Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. »
Ce départ vers le Père de Jésus ne signifie donc pas un abandon de sa part. Bien au contraire, une fois monté vers le Père, Jésus va être en communion avec ses disciples, et une communion encore plus parfaite que celle qu'il a vécue jusqu'alors.
« Vous l'avez entendu. Je vous ai dit que je m'en vais et que je viens à vous. Si quelqu'un garde et vit ma parole, le Père et moi, nous viendrons à lui, et nous établirons chez lui notre demeure.
Nous établirons chez lui notre demeure. Cette présence va donc se réaliser par l'Esprit, une présence spirituelle, mais qui est aussi réelle et même peut-être encore plus que la présence physique. Cette présence de Jésus sera une communion qui va se situer au plan le plus profond de l'être, dans le cœur, au sens de la Bible, ce lieu intime où se décident les choix qui nous font vivre et qui vont nous faire vivre à la manière de Dieu. Jésus a longuement éduqué ses disciples, en leur communiquant les manières d'être du Père. « Ce que j'ai appris du Père, je vous l'ai fait connaître », leur a-t-il dit. L'éducation, en effet, est un long apprentissage de manière d'être et d'agir. Depuis notre enfance, nous apprenons, nous avons appris à parler, à manger, à marcher, et tous ces apprentissages se sont imprimés dans notre mémoire. Eh bien, garder la parole de Jésus et en vivre, c'est conserver comme imprimés dans la mémoire du cœur les gestes qui font agir à la manière du Père divin. Reprendre les façons d'être et d'agir du Père, ce sera lui permettre de demeurer en nous. Ces manières d'être de Dieu, quelles sont-elles? Eh bien, ce sont celles de l'amour dans sa perfection, c'est-à-dire un amour qui est miséricorde, gratuité, pardon. Là où le récit de Matthieu concluait en disant « Soyez parfaits comme votre Père est parfait », le récit de Luc va conclure en disant « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». La perfection de l'être, c'est sa miséricorde. Jésus n'a cessé de dire à ses disciples comment le Père agit. En agissant comme le Père, en agissant par le Père, le disciple vit de la vie du Père, c'est-à-dire qu'il vit divinement. Et cette vie est déjà une vie d'éternité, car elle est une vie d'amour que la mort physique ne pourra pas détruire. C'est ce que dit la première lettre de Jean.
Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Qui n'aime pas demeure dans la mort.
Autrement dit, pour voir Jésus ressuscité de la mort, pour le voir vivant au-delà de la mort de la croix, eh bien, il faudra être sur la même longueur d'onde de vie que lui. C'est la longueur d'onde de l'amour.
Le monde ne me voit plus, mais vous, vous me voyez, parce que moi, je vis et que vous, vous vivez. En ce jour, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous.
Cette perception de la communion intime qui unit à Dieu et à Jésus, voilà ce qui met dans le cœur des disciples la joie pleine qui leur a été promise par le Maître. « Je vous verrai et votre cœur se réjouira. » Et cette joie ne peut être enlevée par aucune des difficultés de la vie quotidienne, car elle est née de notre enfantement à la vie éternelle, à la vie divine. Cet enfantement à la vie véritable, divine, éternelle, se fera de la même manière que pour Jésus, comme l'exprime si bien la première lettre de Jean.
Nous connaissons ce que c'est qu'aimer, en ce que Jésus a livré sa vie pour nous, et que nous devons livrer notre vie pour nos frères. Il leur montre ses mains et son côté. Voyant le Seigneur, les disciples sont alors remplis de joie.
Notre récit associe la joie des disciples à la vue des mains qui portent la marque des clous du côté qui a été percé par la lance. Non seulement le ressuscité est bien le même que le crucifié, les marques dans les mains et dans le côté l'identifient, mais plus encore, cela veut dire que c'est à travers le don d'amour qu'il l'a cloué sur la croix que Jésus est passé de la mort à la vie d'éternité. Cet enfantement mystérieux à la vie d'éternité dont Jésus a si souvent parlé, eh bien cet enfantement a eu lieu sur la croix par le don de sa vie. C'est un enfantement qui n'est certes pas sans douleur, mais il conduit à la vie comme le disait Jésus.
Lorsque la femme enfante, elle est affligée. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. à cause de la joie de ce qu'un être humain est venu au monde.
La croix, parce qu'elle est l'ultime geste de l'amour, la croix conduit à la vie éternelle, cette vie qui trouve son souffle dans le souffle de l'amour divin.
À nouveau, il leur dit, « La paix soit avec vous. »
Eh bien, dans la langue juive, le mot « shalom », paix, est l'équivalent de notre « bonjour ». Alors on pourrait peut-être s'étonner de ce que cet homme qui revient de la mort ne trouve rien d'autre à dire que « bonjour ». En effet, de quelqu'un qui est aux portes de la mort, nous attendons des paroles fortes, ce qu'on appelle le « testament ». Alors de celui qui revient de la mort, combien plus devrait-on attendre ? Mais ce souhait « paix à vous » n'est pas dit avec banalité. Non seulement il est répété, mais il va être expliqué. Et il sera expliqué par un geste qui est peu habituel, une insufflation. Il est en effet peu ordinaire d'insuffler son propre souffle dans la bouche de quelqu'un. Nous le faisons pourtant, c'est vrai, pour redonner le souffle à ceux qui viennent de le perdre, ce que nous appelons la respiration artificielle, le bouche à bouche. Cette insufflation peut ainsi redonner le souffle de vie, la respiration, à celui ou à celle qui l'ont perdu. Cette insufflation fait revivre. Dans le premier livre de la Bible, la Genèse, c'est le même verbe insufflé qui est employé pour décrire la création de l'être humain.
Dieu souffle son souffle vital dans les narines de l'être humain.
Le verbe insufflé va être encore repris dans le livre de la Sagesse pour décrire celui qui se tourne vers des dieux qui sont des idoles.
Il ignore celui qui l'a façonné, qui a soufflé en lui un souffle de vie et insufflé un esprit qui fait vivre.
Et enfin, on retrouve ce même verbe dans le livre du prophète Ézéchiel pour décrire la promesse de Dieu à son peuple Israël alors que le peuple est en exil, loin de sa terre, et qu'il est comparable à un immense amas d'ossements desséchés.
Je prononçai l'oracle de Dieu. Souffle, souffle sur ces morts, ils vivront. Le souffle entra en eux, et ils vécurent.
Eh bien ici, de quelle création peut-il s'agir? Jésus va l'expliciter.
Recevez l'Esprit de sainteté. Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur sont remis.
La remise du péché, en effet, c'est comme une recréation. Le vocabulaire « remettre »,« retenir » évoque peut-être un langage juridique, mais il est surtout évocateur de ce qu'on appelle l'an de grâce qui est cette année jubilaire que le livre du Lévitique prévoyait tous les 50 ans et où Dieu et ses fidèles effacent toute dette sans y mettre aucune condition. Au début de l'évangile de Luc, Jésus définissait ainsi sa mission comme la proclamation de l'an de grâce. Eh bien, voici donc la mission qui est confiée désormais aux disciples par Jésus. Transmettre un souffle spirituel qui pardonne, qui recrée, pour faire de chacun et de chacune un être nouveau. Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez, avait dit Dieu par le prophète Ézéchiel. Eh bien, en ce jour unique de l'histoire humaine, un être de notre race humaine réalise cette promesse de Dieu. Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez. Parce que Jésus est en communion parfaite avec le Père, parce que Jésus a vaincu le mal en son cœur, parce que Jésus est vivant pour toujours de la vie divine. Il est porteur de ce souffle de vie et d'amour qui peut pardonner, qui peut recréer tout humain qui veut bien l'accueillir. En effet, le pardon n'est pas seulement l'oubli de la faute ou son excuse, il est bien plutôt le don d'un souffle de vie et d'amour, un don de vie qui peut guérir le cœur de celui qui a fait mal. Et celui qui accueille en lui ce souffle de vie devient à son tour capable de le transmettre à son prochain. Bien plus, il ne peut accueillir en vérité le souffle divin de l'amour que s'il se rend disponible à le communiquer à ceux qui se trouvent sur son chemin de vie. Pardonne-nous comme nous pardonnons, nous fait dire la prière de Jésus. Et le Talmud, un commentaire juif, dit « Pour celui qui fait preuve de compassion à l'égard de son prochain, pour celui qui pardonne le mal qu'on lui fait, le ciel est miséricordieux, c'est-à-dire Dieu est miséricordieux. » faire rayonner cet amour divin qui sans cesse recrée notre être pour en faire un cœur aimant, eh bien voilà la tâche que Jésus transmet désormais aux siens, comme le Père d'ailleurs la lui avait transmise, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie, je vous donne mission. La communauté des disciples va devenir le prolongement de Jésus lui-même. L'apôtre Paul parlera des chrétiens comme étant le corps du Christ. Il est la tête et nous sommes les membres. Jésus avait parlé de vigne, il est le tronc et nous sommes, nous, ses disciples, les sarments. C'est ce que dit la première lettre de Jean.
Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.
L'envoi par le Père n'a donc pas d'autre but que de sauver la vie de chaque être humain par l'amour. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Remarquons-le bien, le Fils n'est pas venu d'abord pour nous expliquer des vérités philosophiques sur Dieu, mais pour transmettre la force du pardon qui refait chacun comme un être aimant et miséricordieux. C'est ce que dit Paul dans la lettre de Tite.
Lorsque se sont manifestées la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains, il nous a sauvés, non en vertu d'actions que nous aurions accomplies nous-mêmes droitement, mais en vertu de sa miséricorde par un bain de renaissance et de renouvellement que produit l'Esprit-Saint.
Cette mission ne se limite pas aux frontières de la communauté des disciples. C'est une mission sans frontières pour tout le monde. Le chrétien est porteur de l'amour de Dieu pour tout être humain, dont il doit se faire le prochain, comme le dit si bien la parabole du bon samaritain.
Lequel s'est montré le prochain de l'homme qui est tombé aux mains des bandits? C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui.
La bonté que Jésus nous donne de vivre nous demande de partager avec celui et celle qui sont dans le besoin. Besoin de pain, besoin de soins, besoin de travail, mais aussi besoin de dignité, d'amitié, d'espérance et de pardon. Dire « paix à toi » ne doit donc pas être simplement un souhait, mais devenir un don. Que la paix de Dieu vienne réellement en toi, et cela parce que je te donnerai part à l'Esprit de Dieu qui demeure en moi.
Un Fils nous a été donné. On proclame son nom, Prince de la Paix.
Ce texte qui vient d'Isaïe au chapitre 9 décrivait la mission première du Messie, apporter la paix au peuple de Dieu. Le mot « paix » en français vient du mot « pâle » qui veut dire « pieux ». Une suite de pieux fait une palissade. Et ce mot n'évoque peut-être que l'absence de chicane. Il y a paix dans la mesure où chacun respecte les limites du territoire de l'autre, limites de ce territoire qui sont marquées par des pâles, par des pieux. Alors que le mot juif « shalom » décrit plutôt la concorde, la cohésion dans l'harmonie. Un ami se dit « l'homme de ma paix ». Ce mot « paix » dans la langue juive « shalom » évoque ainsi la réconciliation. Et si Dieu est l'auteur de la paix, c'est parce qu'il est miséricorde, parce qu'il est pardon.
L'Éternel est clément, miséricordieux, lent à la colère, plein de grâce et d'équité, qui reste fidèle jusqu'à des milliers de générations, qui supporte la faute, la rébellion et le péché.
Ce texte de l'Exode au chapitre 34 est la révélation qui est faite à Moïse. Et c'est à cause de cette toute-puissante miséricorde de Dieu que la fête juive par excellence est celle du Yom Kippour, le jour du grand pardon. On dit que toutes les fêtes juives pourraient bien disparaître, Kippour, la fête de Kippour, demeurerait. Eh bien, ce jour, la liturgie juive fait lire le livre de Jonas. On sait que le prophète Jonas a été envoyé par Dieu prêcher la conversion aux païens de la ville de Ninive, à cause précisément de la miséricorde divine qui est pour tous et non pas pour les seuls juifs. Je m'inspire ici de Jean Moutapa, qui décrit la mission de Jonas dans son livre « Dieu et la révolution du dialogue ». Il fait le parallèle entre Jonas et le grand prêtre, de même que le grand prêtre, à l'époque du Temple, était littéralement avalé dans le Saint des Saints, parce que ce jour-là, c'était le seul jour de l'année où il rentrait justement dans cette pièce qu'on appelle le Saint des Saints, dans le Temple de Jérusalem, et il faisait cela le jour de Kippour. Eh bien, Jonas, lui aussi, a été avalé par un gros poisson. Durant 3 jours et 3 nuits, le prophète Jonas demeure là, dans le ventre de l'animal marin, comme une gestation dans une matrice féminine. Il prépare, dans cette matrice, sa renaissance, la reconversion totale de son être. On sait que Jonas ne voulait pas aller prêcher la miséricorde. Et cette reconversion, cette révolution intérieure, consistera justement à comprendre, à assumer, à porter la mission, la miséricorde divine à tous, les pécheurs comme les justes, les païens comme les israélites. Et au sein de cette matrice qui se dit Rehem en hébreu, Jonas va pénétrer l'infinie puissance de miséricorde. Et le mot miséricorde est de même racine que le mot matrice. Il se dit Ramim. Chouraki, dans sa traduction de l'évangile, au lieu de dire les miséricordieux, dit les matriciels. Eh bien, au sein de cette matrice, Jonas va pénétrer l'infinie puissance de miséricorde qui est l'attribut suprême de ce Dieu dont il n'avait perçu jusque-là que la redoutable justice. Eh bien, Jésus lui aussi a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Son rejet par les puissants de son peuple, par l'élite religieuse, est le symbole du rejet de l'amour par le péché. Ces 3 jours dans le ventre de la terre sont pour Jésus comme une descente aux profondeurs infernales du mal. On dit qu'il est descendu aux enfers. Mais Jésus va sortir vainqueur de ce combat avec le mal, et il en sort vainqueur par sa fidélité à la miséricorde. On retrouve l'image de l'enfantement. La croix, la descente dans les profondeurs du mal, est comme une matrice qui enfante un Christ qui sera éternellement vivant de la miséricorde divine. Le Christ revient du séjour des enfers, porteur de la compassion de Dieu pour tous et pour toujours. En lui, Jésus, il n'y a et il n'y aura jamais trace de péché, et c'est pourquoi il sera le médiateur de la communion entre nous et le Père. Il sera le médiateur d'une alliance qui sera éternelle, parce que lui est maintenant ressuscité, vivant, immortel. Cette alliance qu'il sera toujours possible à chacun des fils et des filles de Dieu de renouveler lorsque par la faute nous l'aurons rompue ou détériorée. Jésus accomplit en son être la promesse divine telle qu'Ézéchiel la décrivait déjà.
Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf.
Voilà le fruit de la croix. Parce qu'il a vaincu la mort, le mal et la mort par l'amour, parce qu'il est vivant pour toujours, Jésus est celui qui peut sauver chacun et chacune, qui peut lui donner la vraie vie. Il s'offre à nous comme le compagnon, porteur de l'amour qui vient de Dieu, comme l'ami qui peut faire vivre de la vie véritable. Je suis le chemin véritable de la vie. Cependant, Jésus, même s'il est vivant, demeure invisible à nos yeux. L'épisode de l'apôtre Thomas, qui vient clore le récit évangélique de Jean, va décrire le mode de relation qui sera désormais celui de Jésus avec ses disciples tout au long de l'histoire humaine. Dans les jours qui suivent Pâques, les apôtres Jean et Pierre rétorquent au Sanhédrin qui veut les faire taire « Quant à nous, nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu et entendu. » S'ils ont foi en Jésus ressuscité, c'est parce qu'ils ont expérimenté que Jésus est porteur de résurrection, comme il l'est pour cet infirme que Jésus, par la voix de Pierre, fait marcher.
De l'argent, j'en en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, marche.
Oui, c'est par Jésus, crucifié par vous, ressuscité par Dieu, c'est grâce à lui que cet homme se trouve guéri, dira Pierre. Voilà l'expérience chrétienne, en ce cas-là de plus fondamental, celui qui a été rejeté, Jésus, est devenu maintenant la source de toute vie, parce qu'il est source de l'amour divin. Pierre reprend l'image que Jésus avait empruntée lui-même au psaume 118, « La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Il appartient maintenant aux apôtres d'en témoigner pour la suite de l'histoire. »
Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché de la parole de vie, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous.
Dans sa première lettre, Pierre s'adresse aux chrétiens et il parle de l'indicible joie qui naît de la foi.
Vous qui aimez Jésus sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans qu'il vous soit visible, tressaillez d'une joie indicible, remportant comme prix de votre foi le salut de vos vies.
La parole de Jésus, qui sera transmise de génération en génération, devient la source de la foi, non parce que Jésus réclamerait de ses futurs disciples une foi aveugle, mais parce que la parole de l'Évangile doit nous faire faire la même expérience que Jésus, si nous faisons de cette parole la règle de notre agir quotidien. Et cela parce que Jésus est vivant et qu'il nous donne son esprit qui nous fait agir comme lui. L'esprit de Jésus nous fait aimer gratuitement tout prochain. Il nous fait aimer de l'amour même qui est celui de Dieu. En faisant la parole, par le souffle de l'esprit, nous allons passer sans cesse de la mort à la vie. On est ici au-delà des preuves apologétiques, des preuves rationnelles qui voudraient démontrer et pourraient convaincre que Jésus est bien ressuscité. Il n'y a pas, en effet, plus de preuves historiques de la résurrection qu'un époux ne peut présenter de preuves irréfutables de l'amour de son épouse. Par l'amour, il fait confiance, en s'appuyant sur ce qu'il a déjà vécu avec celle qu'il aime. Demander des preuves de l'amour, en effet, c'est en tuer la gratuité. La parole de Jésus nous fait ressusciter de toutes nos petites morts quotidiennes. Elle nous fait expérimenter que l'égoïsme nous referme sur nous-mêmes et nous conduit à la tristesse, alors qu'aimer son prochain est source de joie. La parole de Jésus nous dit que le doute en l'autre détériore l'amitié et qu'au contraire, la confiance fait revivre des liens qu'on croyait morts. La parole de Jésus nous fait éprouver que le ressentiment et le refus de pardonner ne peuvent conduire qu'à la souffrance, alors que le pardon donné peut apporter la paix à nous-mêmes et la guérison à notre prochain. Expérimenter que le don de soi par amour fait vivre n'est donc pas hors de notre portée quotidienne. Une revue publiée à l'Apocatière, Intuition, rapportait autrefois ce petit fait vécu d'un petit garçon du primaire. Un jour en classe, il découvre une flaque d'eau entre ses pieds et que le fond de son pantalon est mouillé. Il ne comprend pas ce qui vient de lui arriver, mais il sait que quand les autres découvriront cela, ils vont le ridiculiser sans répit. Et soudainement, une de ses camarades, Suzy, qui transporte un poisson rouge dans un pot, échappe le pot et renverse l'eau juste sur les pantalons du garçon. Alors au lieu d'être objet de ridicule, voilà que le garçon attire la sympathie. Le professeur va lui chercher des vêtements de sport, pendant que ses camarades essuient le parquet. Suzy, elle, veut aider, mais on lui ordonne de se tenir loin. Tu es trop maladroite. Le soir, dans l'autobus, le garçon va vers Suzy. Il lui chuchote à l'oreille. « Tu l'as fait par exprès, n'est-ce pas ?» Et Suzy lui chuchote à son tour. « J'ai déjà mouillé mon pantalon, moi aussi. » Eh bien, à cause de sa compassion, Suzy a peut-être été momentanément exclue du groupe de ses camarades, mais elle a fait revivre son compagnon et elle a reçu pour elle une joie profonde. N'est-ce pas, à partir de telles expériences où nous expérimentons que le don de soi par amour est ce qui fait vivre en vérité, que nous pourrons jeter toute notre confiance en Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Si vous voulez le texte de cette émission, téléphonez au 514 256 4110 256 4110. À la semaine prochaine, chers auditeurs et auditrices, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.